France Culture.
Les midis de Culture, deuxième partie, c'est parti. Bienvenue à toutes et à tous. À 13h, comme promis, on discutera avec le metteur en scène Martial Difonzobo et la comédienne Marie-Sophie Ferdan. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour Marie.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Alors, vous n'avez pas pu passer à côté. Ils sont partout. Votre voisine de métro, votre voisin dans un café. Jeunes et plus âgés ont en main ces livres de poche à la couverture mystérieuse. Un œil de femme dans une serrure de porte. Ces livres qui semblent rendre addicts tous ceux qui s'y risquent, ce sont les trois tomes de la saga de Frida McFadden, la femme de ménage, qui s'approche en France des 2 millions d'exemplaires vendus. C'est colossal et inédit. Le phénomène éditorial de la femme de ménage, c'est le dossier du Point Culture du jour. Marianne Payot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et critique littéraire pour L'Express. Vous suivez depuis quelque temps le phénomène éditorial autour de Frida McFadden. Pour commencer, peut-être vous pourriez nous la présenter en quelques mots, cette autrice, qui est-elle ?
C'est une auteure, une romancière très étonnante, puisqu'effectivement, elle est médecin. Bon, il y a eu beaucoup de médecins qui ont écrit, mais en l'occurrence, elle écrit des romans. Elle s'est auto-publiée pendant une bonne dizaine d'années sur Amazon. Ça veut dire qu'elle ne trouvait pas d'agent, elle ne trouvait pas d'éditeur. Et c'est un éditeur britannique, en fait, qui l'a repérée. Elle est américaine, hein. Elle vit dans la banlieue de Boston avec sa famille, son chat. Enfin bon, c'est la carte postale typique. Et donc, elle a été repérée par un éditeur britannique qui s'appelle Bookotube, qui est habitué justement à aller essayer de repérer comme ça sur les applis d'auto-édition des auteurs prometteurs. Et ben voilà, c'est le jackpot. Et notre éditeur français, qui est donc City Edition, qui est un éditeur de romans grand public, mais qui a du flair pour le coup. Son patron, qui est pas très connu et qui existe pourtant depuis 20 ans, s'appelle Frédéric Thibault, lit ce roman, donc c'est le premier donc de Frédéric McFadden, qui a 44 ans, s'appelle La femme de ménage, enfin le premier publié en tout cas, The Housemaid en anglais. Il le lit sans grande conviction parce que, voilà, on est dans le suspense psychologique ou thriller domestique, ça dépend comment on l'appelle, qui est un peu passé de mode. Le grand précédent, ça avait été Paula Hawkins avec La femme du train, ça avait été
un énorme succès là aussi.
Ça avait fait un malheur, mais c'était il y a déjà 10 ans, hein. C'était en 2015, je crois. Donc il le lit sans grande conviction, et puis comme on dit qu'il a du flair et de la chance, eh ben il le lit en nuit. Et le lendemain matin, il envoie un mail à son correspondant britannique en disant « Top là, je prends ».
Alors, il a eu du flair en effet, parce que là, on approche des 2 millions d'exemplaires vendus, et je ne parle que de la France. Comment est-ce que vous expliquez cet engouement des lecteurs français pour, alors prenons peut-être la trilogie de La femme de ménage, qui est les romans aujourd'hui les plus connus. Pourquoi les lecteurs français se sont jetés sur cette trilogie-là ?
Ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que ce ne sont pas que les lecteurs, ce sont aussi les non-lecteurs qui lisent, les non-lecteurs usuels, on va dire, hein, qui lisent La femme de ménage. Alors, tout a commencé donc avec le premier tome, La femme de ménage. L'idée, c'est que ce sont les jeunes, et surtout pas la presse, hein, qui ne voit que maintenant le phénomène, mais qui ne l'a pas vu augmenter petit à petit, qui se sont emballés pour ce roman, notamment à travers les réseaux sociaux. On connaît BookTok, hein, le réseau
sur
social.
Sur TikTok.
Et c'est vrai que ça a servi aussi de spirale. En deux mots, hein, l'histoire de la femme et de ménage. C'est Millie, donc c'est une jeune héroïne dont on apprend petit à petit qu'elle a fait de la prison, beaucoup de prison, hein, 10 années, mais on ne sait pas encore pourquoi, qui donc est sortie de prison, mais qui a un problème, il faut absolument qu'elle trouve du boulot, elle a du mal évidemment avec un tel CV, et elle se fait embaucher dans une belle demeure de Long Island par un couple riche et beau, enfin comme il y en a beaucoup aux États-Unis, donc elle est absolument ravie, elle fait tout ce qu'on lui demande, elle se rend compte que la maîtresse de maison est assez cinglante, mais le mari, le bel époux, riche homme d'affaires, lui, tente d'arrondir les angles. Mais on comprend petit à petit que toute cette belle carte postale va avoir quelques rayures. Et je ne vais évidemment pas déflorer.
Non, ne faites pas
ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est bien fait. La jeune fille a de la gouaille. Hein. Enfin, je l'ai lu. Donc, c'est vrai qu'avec un peu aussi une petite appréhension.
Et vous l'avez lu jusqu'au bout. Et vous aussi, vous vous êtes fait prendre par ce page-turner.
Oui, enfin bon, je l'ai lu parce que c'était mon boulot, mais c'est vrai que c'était absolument pas désagréable. Et j'ai bien aimé le ton un peu enjoué. Il y a un peu d'ironie, il y a de la gouaille populaire dans cette histoire parce que avec cette héroïne Millie qui donc sort de tôle. Et ce qui est sûr, c'est que c'est la revanche des faibles sur les nantis. C'est un peu ça hein, qui plaît. C'est un peu glauque, mais il y a de l'humour, mais il y a aussi des accents féministes évidents. C'est la revanche aussi des jeunes sur les plus anciens. Enfin voilà, il y a et puis c'est surtout ces femmes qui sont soumises à des hommes et qui tout d'un coup vont se venger avec les mêmes armes que les hommes. Et ça, c'est assez jouissif.
Est-ce que ça se rapproche un peu d'un autre phénomène éditorial qu'on appelle la dark romance ? Est-ce qu'il y a ce côté romance qui apparaît dans cette trilogie-là ?
Oui, non, on est plus dans le thriller quand même. Enfin, c'est un mélange très astucieux de cette dame qui est, donc je le répète, spécialiste des liaisons cérébrales, et on voit bien qu'elle sait jouer comme ça avec ce qui peut se passer dans la tête des gens et des plus tordus. Hein. Donc, mais Dark Romance, c'est quand même plus, encore beaucoup plus glauque et plus insidieux dans les rapports entre les sexes, ce qui n'est pas vraiment le cas ici, parce qu'il y a de la rébellion dans l'air, ce qui est quelquefois le cas dans la Dark Romance, mais très très tardivement. Et non, ce qui est intéressant dans cette histoire aussi, et ce qui n'est jamais vu, me disait Hélène Fiamma, qui est la patronne de J'ai lu, c'est donc l'éditeur de poche qui a dit oui quand City a mis sur le marché, parce que vous savez, bon, les éditeurs de grand format, maintenant, ils essayent pratiquement de manière simultanée de trouver un éditeur de poche. Mmh. Qui va donc acheter les droits et ce qui va lui permettre aussi de payer la traduction. Enfin voilà, là il y a une espèce de consortium qui s'est fait entre City Edition et J'ai lu qui marche du feu de Dieu. Il faut bien voir que City Edition publie 2 livres de Freda McFadden par an, ce qui est quand même colossal. Hein.
Oui, là il y a un nouveau qui sort en avril, je crois.
Hein. Exactement, le 16 avril vous allez avoir La Prof. Et du coup, cette édition-là se sent pousser des ailes parce qu'ils font un tirage de 180 000 exemplaires, ce qui est quand même très important pour un livre grand format. Donc, j'en reviens à J'ai lu. Donc, en fait, le détonateur en France a été, je vous dis, le bouche à oreille. Ce phénomène des jeunes qui, en général, sont plus intéressés par la romance ou par les mangas. Et là, tout d'un coup, ils ne sont pas des grands lecteurs de polar, les jeunes. Mais là, tout d'un coup, ils foncent dessus. Et puis, ça a été, évidemment, J'ai lu, qui a vraiment réussi le coup. Parce que La Femme de ménage donc, sort le 4 janvier 2023 chez City et à l'automne, le 4 octobre, chez J'ai lu. Et il s'en vend encore aujourd'hui, alors que ça fait plus d'un an et demi que J'ai dû la publier, 50 000 par semaine. Mais c'est un truc de fou.
C'est vraiment un truc de fou.
C'est à 8,60 euros. Et c'est vrai que pour 8,60 euros pour les jeunes et pour les moins jeunes, parce que moi je connais beaucoup de gens qui le lisent et qui ne sont pas forcément des grands lecteurs, et bien c'est beaucoup de plaisir pour une somme toute très raisonnable.
Bien, merci beaucoup pour ce décryptage, Marianne Payot. Merci.
Mais de rien.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, hier avait lieu la cérémonie des Victoires de la musique classique.
Oui, cette 32e édition qui se déroulait au Théâtre des Arts de Rouen a notamment couronné la mezzo-soprano Lucille Richardot, qui a reçu le trophée d'artiste lyrique de l'année. La violoncelliste Lucille Boulanger a remporté quant à elle la prestigieuse récompense de meilleure soliste instrumentale. Elle a tenu à rappeler dans son discours l'importance du statut d'intermittent du spectacle, une exception française en Europe qui permet aux artistes de bénéficier d'un temps de travail et de recherche nécessaire. Ces Victoires de la musique classique ont aussi récompensé la soprano Julie Rosé, révélation artiste lyrique, Régis Campo dans la catégorie compositeur ou encore George Benjamin pour son enregistrement Picture A Day Like This créé pour le festival d'Aix-en-Provence.
Cinéma à présent, la fin du DVD est proche.
Et oui, c'est le constat que dresse le Digital Entertainment Group dans son rapport annuel qui annonce une baisse des ventes de DVD de 23% dans le monde entre 2023 et 2024. Mais cette réduction est encore plus impressionnante sur un temps long. En 2006, la vente de DVD avait rapporté 16,6 milliards de dollars contre moins d'un milliard de dollars l'an passé. Le support physique subit donc la concurrence des plateformes de streaming et de location sur demande qui sont devenus les principaux canaux de visionnage des films et des séries. Mais dans le même temps, la vente de coffrets Blu-ray Premium est en augmentation, preuve que le DVD ne va pas complètement disparaître, cantonné sans doute à devenir un support de collection comme le vinyle aujourd'hui.
Et pour finir, Marie, nous célébrons ce mois-ci les 80 ans d'un film mythique du cinéma français.
Oui, en mars 1945, sortait sur les écrans français Les Enfants du Paradis, réalisé par Marcel Carnet et Jacques Prévert, avec au casting Arletty, Jean-Louis Barrault, Maria Cazares ou encore Pierre Brasseur. Tourné en 1943 sous l'occupation, ce chef-d'œuvre du cinéma prend pour décor le monde du théâtre parisien au 19e siècle et raconte l'histoire d'un amour contrarié. Le long métrage a été élu en 1995 meilleur film du 20e siècle et a même été classé par l'UNESCO au patrimoine mondial. Vous allez le revoir ce week-end, j'en suis sûre, Marie.
C'est sûr. Merci beaucoup, Marie. Et on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h passé de 30 secondes et vous êtes sur France Culture.